L'atelier des médias.
À qui t'adresses-tu quand tu produis de la radio? C'est une question que je me pose depuis toujours et que l'on me pose souvent aussi. Je vous imagine avec un poste collé à l'oreille dans un marché de Cotonou. Je vous vois en train de conduire un taxi, une voiture à Douala, Dakar, Paris ou Beyrouth. Je vous espère attentif. On nous dit souvent que l'écoute de la radio est flottante, qu'il ne faut pas abuser de paroles, de propos complexes, qu'il faut rythmer, aérer, penser à l'auditeur qui fait autre chose en même temps. À qui t'adresses-tu quand tu produis de la radio? J'ai choisi personnellement de songer en priorité à celles et ceux qui nous écoutent attentivement. C'est donc à vous que je pense quand je prépare une émission, vous qui allez juger chaque mot, chaque échange, chaque silence, vous qui souvent gratifier cette émission de retours enthousiastes ou de critiques minutieuses. Vous qui nous podcastez pour occuper vos moments de voyage, de transport, d'activités sportives. Merci d'être là. L'atelier vous prépare pour les mois à venir de nombreuses surprises. L'atelier, c'est-à-dire Simon Decreuse, Mathias Virilli, Manon Mella, Camille Deloche et votre serviteur Ziad Malouf.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf. Simon Decreuse.
Et vous.
Il y a quelques semaines, nous préparions une série sur l'innovation dans le monde de l'édition. Je me suis alors souvenu d'un échange avec Maël Inizan de Numa. Il m'avait mentionné l'existence d'un créateur français qui révolutionne l'univers des livres pour enfants en imaginant des interactions entre le papier et les tablettes. Malgré plusieurs tentatives, Google n'a pas réussi à trouver son identité. J'ai donc recontacté Maël qui m'a renvoyé un nom, Étienne Mineur, et une structure, les éditions Volumique. Nouvelle recherche, fructueuse cette fois sur Google avec ses nouvelles infos, prise de contact grâce au site des éditions Volumique, et 24 heures plus tard, j'ai rendez-vous à quelques centaines de mètres de mon bureau, à Malakoff, avec une personne que l'on peut qualifier sans flagornerie d'extraordinaire. So I fold it up and I flick it out. Paper aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you. Cause it didn't leave my room. But it awaits the hands of someone else. The garbage man. And God said,
Alors bonjour, je suis Étienne Mineur, je suis designer de formation et je suis le cofondateur de Volumique. Alors Volumique, c'est une maison d'édition et en même temps un labo de création.
Vous êtes à l'origine designer plutôt numérique. En 2009, vous avez décidé donc de cofonder une maison d'édition et de travailler sur le papier.
Oui, effectivement. On vient tous là du milieu numérique. Hein. Moi, en tant que designer, je travaillais sur des CD-ROM, des Minitel même, et des sites web, des applications mobiles. Et Julien et Tristan, qui sont développeurs, ont travaillé sur des logiciels comme Virtools et dans le jeu vidéo. Ce sont des logiciels 3D, hein, temps réel. Et dans le jeu vidéo, donc on vient vraiment tous du numérique. Et il y a maintenant 6 ans, donc 7 ans, on a décidé de revenir au papier, en estimant qu'on parle beaucoup d'objets connectés, de choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire des jeux vidéo en papier, c'est-à-dire garder la beauté et l'interactivité de tout ce qu'on peut avoir dans le jeu vidéo, et en même temps garder justement l'aspect tangible qui est toujours aussi intéressant, et on le voit avec les enfants où les livres en papier n'ont jamais autant marché actuellement. Donc essayer de ne pas opposer les deux, de ne pas opposer le numérique au support papier, mais au contraire d'essayer de trouver des ponts entre ces deux univers.
C'est un choix qui peut paraître assez radical, voire conservateur, réactionnaire. Qu'est-ce qui a motivé ça à l'origine?
Alors, c'est sûrement l'arrivée des 40 ans, et puis après, non, je rigole, mais non, c'est vraiment après avoir travaillé tous pendant presque plus de 20 ans sur l'écran et pour l'écran, on avait tous un besoin de retourner à des objets physiques tangibles. Et moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire, ou c'est des sortes de gros mots.
Ubiquitaire, ça veut dire qu'il est partout.
Exactement, ça vient d'Ubique, hein, de Philippe K. Dick. Hein, mais on va essayer d'être moins dystopique que Philippe K. Dick. Mais en tout cas, l'idée, c'est l'informatique va se diffuser dans notre quotidien. Ben, on le voit avec les ordinateurs qui sont arrivés dans nos poches, hein. Ce sont des petits téléphones maintenant. Et l'idée, c'est de toujours, enfin, l'idée, c'est en tout cas ce que j'aimerais, moi, hein. Et puis après, on le propose et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, de garder toujours, par exemple, le livre, le papier. Ça fait plus de 500 ans que ça existe, le livre. C'est presque un objet parfait. L'usage est totalement assimilé dans nos cultures. C'est toujours aussi magique. C'est facile à produire, c'est facile à diffuser. Par contre, on vit dans un milieu numérique. Et l'idée, c'était d'essayer de pas opposer ça. Et moi, je crois pas du tout au passage au tout numérique, par exemple. Pourtant, je viens vraiment du numérique, mais pas une seconde. C'est-à-dire, je suis sûr que dans 200 ans, on se retrouvera tous. On aura des objets physiques, on aura des tables, des chaises. Je suis sûr qu'on aura des objets qui vont ressembler encore à des livres. Par contre, ces objets vont être complètement magiques. C'est-à-dire qu'ils vont savoir qui les lit, où on est, qu'est-ce qui se passe autour de nous, s'il fait beau, s'il pleut. Voilà. Et après, notre idée, nous, c'est d'essayer de trouver des auteurs, des designers et des développeurs qui vont travailler dans le même sens et essayer de trouver du sens à cette histoire.
Quand, donc il y a 6-7 ans, vous décidez de réexplorer le papier avec votre bagage numérique, par quoi vous commencez? Qu'est-ce que vous commencez à faire pour réexplorer le papier? Parce que l'idée, c'est pas de devenir un éditeur normal sur du papier, c'est d'un peu de pour vous citer, vous l'aviez dit, hacker le papier, c'est-à-dire détourner, bidouiller avec le papier.
Ouais, tout à fait, c'était ça. Au début, on n'est pas parti hein, sur un business plan, sur quelque chose d'assez précis. Voilà, c'était une envie, hein, et aussi bien des Bertrand avec qui j'ai commencé, Julien, Tristan, et moi en tant que designer, et Julie avec qui on travaille, qui était une étudiante des arts déco, c'était explorer les nouvelles dimensions que nous proposait le numérique, mais tout en gardant l'aspect tangible. Donc la première maquette, moi, sur laquelle j'ai travaillé, c'était le livre qui se prenait justement pour un jeu vidéo. J'étais parti sur le principe, qu'est-ce qui se passe si le livre sait à quelle page il est? Voilà, c'est tout bête. On est arrivé à trouver un système qui permet au livre de savoir où il est. C'est un petit connecteur, hein, c'est-à-dire que la page, quand elle est ouverte, elle sait qu'elle est ouverte à telle page. Donc, à partir de ce moment-là, ben, comment on raconte une histoire? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tout d'un coup, le livre sait, par exemple, à quelle vitesse vous lisez. Voilà. Il sait si vous êtes arrêté. Il n'a pas besoin de marque-page. Voilà. Plein de petites choses comme ça. Donc, on a commencé à bidouiller, à le faire, en vrai. Parce que comme ça, je crois beaucoup au prototype réel, parce qu'on peut avoir plein d'idées, hein, farfelues ou pas, si on le teste pas. C'est pas validé. Et surtout, les idées viennent en testant et en faisant des erreurs. Et voilà, je vous ai montré tout à l'heure tous nos protos plus ou moins ratés.
Parce que là, on est donc dans votre maison d'édition, qui est aussi un peu un atelier, un laboratoire. Et juste en bas, il y a un stock et il y a aussi des prototypes.
Voilà, il y a beaucoup de prototypes en papier. En plus, c'est facile à faire, c'est pas cher. Donc, on teste beaucoup. Donc, pour revenir au premier prototype, c'était un livre. Donc, il savait à quelle page il était. Je suis parti sur le principe des livres dont on peut être le héros. Donc, en gros, un livre interactif, hein, qui date des années, enfin, en gros, ça date des années 30. Hein, mais en gros, ça a eu beaucoup de succès dans les années 80.
Je m'en souviens.
Voilà. Et donc maintenant, avec l'arrivée de l'interactivité, des capteurs qui sont pas très chers et la possibilité technique qui a vraiment accéléré, on arrive à faire un livre dont on est le héros assez facilement. Donc là, ce qui se passait dans ce livre, c'était ce livre. On tournait ses pages. On avait mis un petit buzzer. Donc c'est un petit haut-parleur qui fait juste 3 sons. Et on arrivait à communiquer avec le lecteur de cette manière. En même temps, on pouvait le secouer. C'est-à-dire qu'il avait un capteur de pression, un capteur de mouvement. À un moment donné, par exemple, pour avoir une information précise, il fallait se tourner vraiment vers le nord. Donc le livre sait dans quel sens il est orienté.
Ça, c'est le livre qui se prenait pour un jeu vidéo.
Ouais, hein. Tout à fait, voilà. Donc en gros, on a rajouté pas mal de capteurs qu'on a dans nos téléphones actuellement. Et à chaque fois, on a essayé de trouver dans une double page, de trouver une idée du sens à quoi pourrait servir le fait de, par exemple, secouer son téléphone ou tourner les pages. Par exemple, exemple tout simple. À un moment donné, on doit jouer à Pong. Donc, c'est toujours des références aux vieux jeux vidéo. Donc,
Pong, c'est un jeu de ping-pong, de tennis, le premier jeu vidéo qui se mettait sur la télé.
C'est un des premiers jeux vidéo. Donc, vous aviez deux barres et un autre carré qui se promène. Donc, ça fait une sorte de ping-pong. Donc là, c'est simple. On a une page. Il faut juste la tourner et aller et retour, en fait, sur cette page. Tac, tac, 10 fois de suite dans un rythme précis et on a gagné. Voilà. C'est un usage un peu curieux du livre, très minimaliste. Mais ça marchait. À un moment donné, vous disiez dans le livre, attention, va vite à la page 23, tu as 3 secondes pour y aller pour connaître le coupable. Il fallait vraiment aller dans les 3 secondes, ou 4 secondes, je sais plus, à la bonne page. Et si on n'y allait pas, le livre faisait la tête, il allait bouder pendant 20 minutes, c'est-à-dire qu'il réagissait plus. Voilà. Donc tout d'un coup, on avait un rapport, donc ça c'était pour nous amuser, on l'a testé, ça marche. Quand je dis ça marche techniquement. Après, c'est un livre très fragile. Voilà, le deuxième là qu'on a sous les yeux, c'est un livre qui tourne ses pages toute seule. Donc là, comme vous pouvez voir, il a une armature. En gros, on a du fil, c'est du flexinol, et c'est une sorte de matériau qui, quand on lui envoie du courant électrique, il se rétracte. Donc, on arrive comme ça à arriver à faire tourner les pages, la page sur laquelle on veut aller. Donc,
là, je vois l'infrastructure de ce livre, hein, qui est encore un prototype. Ah oui, un prototype. Voilà. Et donc, on voit plein de petits fils électriques qui partent, qui sont des fils rouges, et entre les pages, on voit derrière les pages, une sorte d'armature en métal. Et du coup, les petits fils rouges servaient à apporter une décharge électrique.
Exactement. Et voilà, les petits fils rouges sont liés à une petite carte qu'on appelle Arduino. Hein, c'est une petite carte, on va dire, intelligente, qui reçoit des informations. Et suivant les informations qu'il reçoit, il va renvoyer l'électricité sur tel fil rouge. Et ce fil rouge va être lié à une page précise. Et quand il va envoyer du courant à cet endroit, hop, il va rétracter le fil. Et ça va permettre de faire tourner l'armature et donc tourner les pages. Donc, ça, c'est... Et alors, la chose aussi intéressante, c'est que cette petite carte était liée sur un site, était lié à Internet, on va dire. Et j'avais fait un petit jeu vidéo sur téléphone qui représentait le même graphisme que ce livre. C'est un petit jeu avec un petit ballon. Et quand on arrivait à passer un niveau sur le téléphone, donc du jeu vidéo, ça faisait tourner les pages du livre. Et réciproquement, quand on tournait les pages du livre, ça changeait le niveau du jeu vidéo. Voilà. Donc tout d'un coup, il y avait des interactions et des ponts entre le numérique et le physique. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un nouveau champ, en fait, d'exploration. En même temps, en testant, on s'aperçoit que les enfants, par exemple, eux, ne se posent pas de questions, c'est normal. Enfin, voilà, c'est la même histoire. Je passe de la télé au cinéma, à Internet, à mon jeu vidéo et à mon livre. C'est une sorte d'écosystème tout à fait logique qui, par contre, quand on arrive chez les éditeurs classiques, c'est pas du tout les mêmes canaux de distribution. C'est-à-dire que là, on s'en aperçoit, nous, maintenant qu'on est, entre guillemets, vrai éditeur, on a les librairies, on a les magasins de jouets, on a les distributeurs de jeux vidéo, on a ce qui est en ligne, ce qui n'est pas en ligne. Voilà. Donc, l'infrastructure est totalement différente. Mais pour les enfants, par exemple, bah, eux,
C'est naturel.
C'est naturel. C'est-à-dire, c'est la même histoire. Voilà. J'aime mon petit ballon, qu'il soit sous forme physique de peluche ou au cinéma, c'est toujours mon petit ballon rouge.
Donc ça, c'était le livre qui tourne tout seul ses pages. C'était le deuxième prototype. Et là, vous avez le troisième entre les mains. Donc c'est un livre à la couverture en cuir noir. Et là, vous ouvrez les pages et elles sont toutes noires.
Alors ça, c'était, je crois, le troisième, quatrième prototype. Les gens pourront aller voir sur volumique.com. Tout en bas, on a mis tous nos prototypes ou presque. C'était un livre qui, à partir du moment où vous l'ouvrez, il disparaît en 20 minutes. C'était pour... moi, je suis un spécialiste. Je pense que beaucoup de gens sont comme ça, pour vos mails, vos choses comme ça. C'est dire, bon, je le lirai plus tard. Je le lis en diagonale, je le lirai plus tard. Et en fait, c'est pas vrai. Vous n'allez jamais le lire plus tard. Et je voulais remettre ce principe sur un livre. C'est-à-dire, à partir du moment où on l'ouvre, ben, on prend la responsabilité de le lire dans les 2 heures qui suivent, ou 20 minutes qui suivent, parce que, voilà, on se pose. Donc, j'imaginais un petit système. Alors là, vous voyez le prototype, prototype. Là, il a été bien abîmé. Mais le livre, hein, à partir du moment où vous l'ouvrez, en fait, alors c'est un livre très dangereux, il est juste branché sur le 220, hein. Et en fait, il y avait une résistance ici, en plein milieu. Et ce livre est constitué de papier fax, et le papier fax est thermosensible. C'est-à-dire qu'à la chaleur, il va noircir. Ou change de couleur. En tout cas,
le fax, je rappelle, c'était donc une technologie qui permettait d'envoyer des textes par téléphone.
Et exactement. Donc c'est une très très vieille technologie et ce papier fax ne coûte plus rien du tout. Et surtout, il est utilisé pour les caisses enregistreuses, par exemple. Donc c'est du papier qui est imprimé des milliers de kilomètres carrés très facilement. Donc l'idée, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Et donc à partir du moment où vous ouvrez ce livre, la résistance se met en marche, ça chauffe le papier et petit à petit, ça vous voyez après une heure de chauffage entre guillemets, le livre devient tout noir et c'est définitif. Donc on a un rapport très curieux. Donc c'est du hacking de livres, on appelle ça aussi du design spéculatif, voilà, sur des objets. C'est-à-dire on fait du design. A priori, le design, c'est plutôt pour aider les gens. C'est plutôt pour, on parle d'ergonomie, de choses comme ça. Et là, tout d'un coup, on part sur une direction totalement différente. Et si ce livre, par exemple, tout à l'heure, ne vous aimait pas, si ce livre ne vous autorisait à le lire que 2 heures par jour, pas plus. Voilà. Donc on part sur des idées plus ou moins farfelues. Mais après, en tout cas, c'est un outil de travail créatif. Ça va vous donner des pistes. Donc, ça valide ou pas certaines pistes. Et ça va donner des idées pour d'autres projets qui, après, peuvent être plus réalistes, entre guillemets.
Plusieurs remarques donc, sur cette démarche qui était à l'origine de votre entreprise, tous les sens du terme entreprise. D'abord, il y a un côté un peu recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça va servir. Mais on le fait parce qu'on sait que... En trouvant des solutions à ce problème qu'on s'est posé, ben ça pourra servir éventuellement.
Ah oui, c'est pas du tout. C'est une structure. Alors on essaye de se structurer un peu plus maintenant qu'on est une vraie entreprise. Mais au départ, c'est vraiment une intuition. Dire j'ai envie de jouer avec du papier, mais je viens du jeu vidéo. Et est-ce que tout ce que j'ai appris dans le jeu vidéo peut s'appliquer à du papier ? J'essaye de le faire d'une manière presque, très premier degré. Hein. Genre, tiens, le livre, qu'est-ce qui se passe s'il a un capteur, si je le secoue, si je le plie dans tous les sens ? Puis petit à petit, on est arrivé à trouver des solutions au niveau de l'histoire et de la narration, et en même temps des solutions technologiques. Donc par exemple, on a trouvé une solution toute bête. Les écrans, donc il y a 6-7 ans, les écrans capacitifs apparaissent. Donc, les écrans capacitifs, c'est ce qu'on a sur toutes nos tablettes et nos téléphones actuellement.
Les écrans qu'on peut toucher, etc.
Voilà, c'est des écrans, contrairement au précédent qui s'appelait résistif, c'est-à-dire il fallait appuyer. Donc vous voyez les écrans SNCF où il fallait appuyer très fort avant. Et en fait, sont apparus il y a quelques années des écrans donc, qui sont sensibles au champ électrique de votre corps. En gros, donc il n'y a pas besoin d'appuyer très fort sur ces écrans, c'est juste le contact. Et on a eu l'idée de vouloir poser des objets sur ces téléphones. Pour vous dire, j'ai acheté des petites figurines, je sais pas ce qu'il m'a pris dans un magasin de train électrique, et j'ai commencé à poser ces petites figurines sur mon écran, qui était à plat, horizontal. Je me suis dit, tiens, c'est amusant, vous voyez, c'est marrant de dire. Et puis, moi, je suis prof dans différentes écoles et je vois que mes étudiants ont commencé à jouer au Polly Pocket, en fait. Hein. Polly Pocket, c'est des petites figurines toutes petites. Et je me suis dit, ce serait intéressant si ces petites figurines pouvaient justement interagir avec l'écran. C'est-à-dire, si je le pose, ces petites figurines soient reconnues. Et là, on a eu l'idée, donc ça, c'est une intuition, dire, tiens, poser des petites figurines sur un iPad, par exemple, sur une tablette, tout d'un coup, on a tout un champ des possibles qui s'ouvre. C'est-à-dire, même les enfants commencent à se raconter des histoires.
Donc, et ça rappelle le plateau du jeu aussi. Hein.
Ah tout à fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé dans le jeu de société. Après, on se retrouve dans un plateau, sauf que tout d'un coup, ce plateau, il est animé, il a du son, il est magique. Après, c'est comment arriver à faire reconnaître ce petit objet. Donc, l'idée, par exemple, qu'on a eue est toute simple, c'est qu'on a enduit ces petites figurines d'encre argentée. Donc, l'encre argentée conduit l'électricité. Et sous cette petite figurine, on a mis, par exemple, trois petits picots, trois petits ronds. Et quand vous prenez cette petite figurine que vous posez sur une tablette ou un téléphone, lui, le téléphone, va voir trois points. Et suivant la forme que va donner ces trois points, il va reconnaître le pion 1, 2, 3, 4. Donc, on a fait un petit système de reconnaissance toute bête. Donc ça, c'est une technologie qui a été inventée, développée, déposée. C'est-à-dire qu'on a déposé des brevets. Et à partir de là, là, on a commencé à travailler avec des industriels dans le domaine du jouet, par exemple, pour pas les nommer Hasbro, qui sont venus nous voir en nous disant, voilà, votre technologie très simple qui n'utilise pas de piles.
Oui, parce que la source d'énergie, c'est le corps humain qui produit de l'électricité.
Voilà, exactement, c'est le corps humain. Et ça marche même avec du papier. C'est même du graphite avec du crayon à papier. Ça marche pas longtemps, mais tout matériau conducteur peut conduire l'électricité de votre corps et interagir avec l'écran. Donc ça, ce sont des idées, on en a eu plein d'autres. Hein. Par exemple, Yoho, où ce sont le téléphone, à partir du moment où le téléphone est posé sur une grande carte, on utilise les accéléromètres, donc c'est des petites billes hein, qui sont dans les téléphones, qui vont vous donner la direction dans laquelle est poussé le téléphone. Donc quand je suis sur la case A1, si je le pousse vers le haut, le téléphone va savoir que je suis sur la case A2. Et comme il a en mémoire la carte sur laquelle il est posé, on a une sorte de petite dimension, une sorte d'effet magique, où on a l'impression que l'écran est transparent et qu'on voit vraiment la carte physique qui est sous l'écran. C'est un peu compliqué, c'est dur à la radio de raconter tout ça, mais l'idée c'est vraiment de travailler sur du papier ou sur des objets classique, sans rajouter de piles ni de technologie, et d'utiliser tous les capteurs et la technologie qu'on a dans ces téléphones ou ces tablettes au maximum.
Autre remarque par rapport à votre démarche, j'ai dit que c'était un peu comme de la recherche fondamentale. Il y a aussi un petit côté développement informatique, c'est-à-dire comme si vous preniez le papier comme un codeur prend l'environnement numérique, il va essayer de trouver des solutions, développer sa recherche, etc. C'est comme s'il fallait repenser le papier comme un nouvel environnement informatique que vous allez essayer de recoder, essayer de voir tous ses possibles. Il y a un peu ça ou pas du tout?
Ah oui, de toute façon, dès qu'on part dans une nouvelle direction, donc on a Julien et Tristan à côté de moi.
Ils sont derrière nous, en train de coder.
Exactement, qui sont en train de coder silencieusement. On a par exemple l'histoire des petites figurines enduites d'encre argentée qui vont être reconnues sur l'écran. On teste, on bricole, on voit que ça marche plus ou moins. Après, il y a tout un travail très très pointu, dire bon ben maintenant c'est pas parce que ça marche dans le petit labo, le petit atelier dans un coin, tout d'un coup vous avez Hasbro qui dit voilà, moi je vais en fabriquer 100 000. Il va falloir trouver des solutions très sûres, que ça marche parfaitement, que tout soit cohérent. Et donc là, les développeurs commencent à travailler sur ces solutions. Certaines marchent pas du tout, certaines marchent au contraire très bien. Et après, nous, l'idée là avec Volumix, c'est même de faire des outils pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défriché un terrain, donc on fabrique ce qui s'appelle un SDK, donc un système de développement de kit. C'est-à-dire c'est un outil pour les autres développeurs que l'on peut céder à d'autres qui vont travailler dans d'autres directions, justement. C'est ça qui est intéressant. On a par exemple une société française là, qui s'appelle Marbotique qui a utilisé une de nos technologies pour faire des jouets en bois très très beaux pour les tout petits. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Et ça, c'est génial parce qu'on voit tout d'un coup que la même idée est utilisée sous plein de formes différentes. Donc l'idée après, c'est une fois qu'on a bien validé et défriché un terrain, on propose nous un jeu, une histoire, un livre, que sais-je. Et après, d'autres personnes viennent prendre cette idée et la développer dans leur propre univers.
Courte pause dans l'atelier, on se retrouve dans un instant. Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Étienne Mineur, éditeur et explorateur génial des interactions entre le papier et le numérique.
L'atelier des médias.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Votre ambition d'origine, votre domaine de recherche, ce sont les relations entre le monde physique et particulièrement le papier et le monde numérique. Vous pouvez m'expliquer, me montrer?
En fait, on a d'abord travaillé en recherche et développement pour des groupes plus importants que nous, c'est-à-dire qu'ils nous ont demandé de réfléchir sur des nouvelles manières de jouer justement avec ces outils numériques qui sont un peu diffusés partout. C'est-à-dire que maintenant, en Europe et aux États-Unis et en Asie, et surtout, un smartphone est devenu... C'est même un non-choix. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez un abonnement de base au téléphone, on va vous vendre avec un smartphone. Alors qu'il y a 5-6 ans, non, c'était encore des choses très chères. Donc ça évolue très très vite. Donc les gens du jeu et du jouet sont venus nous voir en nous disant, voilà, nous on a des jeux comme Monopoly, hein, pour tout vous dire. Hein. Voilà, on a Monopoly, hein, c'est un jeu qui marche un peu depuis plus de 100 ans presque. Ben, on voit que les utilisateurs ont des téléphones, ont des tablettes. Est-ce qu'on peut pas faire communiquer les deux? Voilà. Donc nous, on a travaillé là-dessus.
Donc, les deux, c'est-à-dire le plateau de Monopoly traditionnel,
voilà.
Et la tablette,
voilà. Donc il y a une version qui s'appelle Zap App, qui a utilisé notre technologie. Voilà, on a développé pas mal de choses en R&D, puis pour d'autres, hein, d'autres industriels.
R&D, recherche et développement.
Oui, en recherche et développement, pardon. Donc on a affiné nos technologies, et surtout moi en tant que designer, c'est bien pu voir au niveau de l'ergonomie, de l'usage, la manière dont les gens utilisaient ces technologies. Et depuis 2 ans, maintenant, on commence à sortir nos propres, donc comme une vraie maison d'édition, on commence à sortir nos propres livres, jeux, que l'on diffuse nous-mêmes, en fait. Enfin, nous-mêmes, c'est diffusé en librairie, en boutique ou sur notre site web. Mais là, on a passé le cap en disant, voilà, maintenant pour aller plus vite, puis surtout on avait envie que nos petits projets existent vraiment, et puis surtout, il n'y a rien de mieux que le test du public, c'est-à-dire que vous commencez à sortir un petit livre. Là, j'ai un petit livre, c'est un petit ovni, hein, que j'ai dans les mains. C'est un livre classique, hein, il doit faire 24 pages, il s'appelle La Maison Fantôme, la collection Zéphyr.
Immédiatement, on voit que c'est plutôt un livre pour enfants.
Ouais, tout à fait, voilà, c'est un livre pour enfants, hein, c'est à partir de 5-6 ans.
Hein. La collection Zéphyr, c'est votre collection de livres pour enfants, c'est ça?
Voilà, tout à fait, c'est une collection de livres qui mélange. On a toujours un petit livre, on a au milieu de ce petit... On a une petite histoire, donc là, par exemple, c'est l'histoire de cette petite famille fantôme à qui lui arrive plein d'histoires. Au milieu, on a toujours un objet à fabriquer en carton. Donc là, c'est une petite maison, mais ça peut être une petite fusée, un petit ballon, une petite soucoupe volante.
Et on voit donc que la maison est prédécoupée, voilà, dans le carton du livre. Donc il suffit d'enlever la maison du livre et puis de suivre les lignes pour la reconstituer.
Voilà, donc tout est prédécoupé. Il n'y a plus qu'à la coller ou d'autres, comme le petit ballon, c'est juste arriver à la construire même sans colle, hein, tout simplement. Et après, on vous propose de charger une application, donc sur tablette ou sur téléphone, qui est toujours gratuite. Nous, hein, l'idée, c'est que les gens vont acheter l'objet physique et vont télécharger gratuitement l'application. Et après, on va continuer cette histoire sur la tablette. Donc l'idée, c'est de créer une continuité. Et surtout, le petit jeu que l'on trouve sur la tablette ne reprend pas l'histoire. C'est la suite de cette histoire. Et là, par exemple, la Maison Fantôme, on va plutôt le livre tout seul ou avec ses parents. Par contre, la Maison Fantôme, on va y jouer à 3 ou 4 autour de la tablette. Donc ça en revient à des jeux de société assez rapides. D'autres, le petit ballon, au contraire, c'est un jeu, on est plutôt tout seul. Et on va jouer le vent. Et on va faire décoller son ballon. Et on va essayer de le faire atterrir ou photographier des animaux.
Je peux voir ça. Donc là, vous avez un ballon en carton. Un petit ballon qui a un certain volume qu'on peut donc poser sur une tablette numérique. Donc vous ouvrez la tablette.
2%, voilà. Donc là, on vous demande juste si est-ce que vous avez le livre ou pas. Nous, on va dire que oui. Et on va juste, avec le doigt, faire glisser son doigt sur l'écran et on va avoir une sorte d'illusion d'optique. Le ballon va décoller. Parce qu'en gros, c'est le terrain et l'ombre va devenir de plus en plus petite. On va se promener dans un paysage qui est toujours différent.
Oui, parce qu'il y a l'ombre aussi du ballon en papier. Il y a l'ombre qui apparaît dans le terrain qui est sur l'iPad.
Voilà, on a l'ombre qui est numérique et qui est en relation avec la position du ballon dans l'espace. Et on a le ballon, lui, en papier, qui est vraiment physique. Et on doit juste avec le vent. Donc c'est un jeu très cool. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cliquer partout. Vous allez jouer le vent. Donc à chaque fois que je refais je glisse encore mon doigt sur l'écran, le ballon va rebondir. Et le but du jeu, là, c'est juste d'arriver au milieu des cibles. C'est comme un peu du parachute.
Voilà. Donc de le faire atterrir sur une cible.
Exactement. Et plus on arrive au centre, plus on gagne de points et on est obligé de on doit le faire dans les deux minutes. Et après, on a des versions. On vous demande de prendre, on est dans la savane, on a des animaux à photographier. C'est une sorte de petit safari photo. On doit se promener au-dessus de la savane et prendre des photos des animaux. Après, on a la fusée. On a toute une série. Donc, la collection Zephyr est basée sur ce principe. C'est toute une collection de petits livres qui est liée à une application. Et ce qui plaît beaucoup aux parents, c'est que tout d'un coup, vous voyez, là, tout ce que je vous montre, les écrans sont horizontaux. Ça, c'est tout nouveau. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'écran est horizontal, donc on va se retrouver...
L'iPad est posé sur la table.
Voilà, l'iPad est là, exactement, est posé sur la table. Ou nous, deux autres jeux qui utilisent des téléphones, les téléphones sont toujours posés sur la table. Donc, qui dit écran à l'horizontale, si vous commencez à relever les yeux, vous avez des gens autour de vous. Et donc, on se retrouve plutôt dans des mécaniques de lecture partagée ou de jeux de société. Donc, on s'inspire beaucoup des jeux de société. Donc, c'est une sorte de jeu de société augmenté, on va dire, où on a un écran de jeu vidéo à l'horizontale. Vous pouvez entendre des petits oiseaux donc, qui vont vous faire du son, qui vont donner des informations. Et en même temps, on a des êtres humains autour de la table. Donc ça marche très très bien, honnêtement. Hein, quand je dis ça marche très bien, c'est d'abord les enfants sont très attirés par tout ce qui est jeux vidéo, ça les intéresse. Et les parents aiment beaucoup, parce que tout d'un coup, ils vont partager quelque chose avec leurs enfants. Donc on est vraiment dans une notion de partage et on travaille beaucoup sur d'autres projets, comme ça, toujours avec l'écran, enfin la plupart du temps, avec l'écran à l'horizontale, ce qui permet une nouvelle interaction. Ça, c'est moi, en tant que designer d'interaction, on va dire, ça m'intéresse beaucoup parce que on est face à face et puis on a un écran. Là et on regarde, on a une sorte de vision de dessus, ce qui est tout nouveau ça au niveau des écrans.
Ce qui est intéressant, c'est que votre obsession, en tout cas ce que vous cherchiez avec votre entreprise, vous le passez aux enfants finalement, puisque vous leur montrez qu'il y a une continuité entre le livre physique dont on peut tourner les pages et l'iPad des parents. C'est quoi l'idée derrière, ou est-ce qu'il y a un message derrière, une volonté de montrer quelque chose derrière?
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je ne suis pas du tout contre les jeux vidéo, par exemple. Et justement, cette idée que les jeux vidéo vont isoler des choses comme ça. Non, c'est montrer qu'au contraire, on va pouvoir partager la même histoire, qu'elle soit sur papier, sur écran de cinéma ou sur écran vidéo. On va pouvoir partager ensemble la même histoire et interagir ensemble. Donc tout d'un coup, là, par exemple, on a inventé un jeu là, qui va sortir dans quelques mois. C'est pour 4 joueurs, donc ça fait 8 mains sur l'iPad en même temps. Voilà, c'est très drôle. Donc tout d'un coup, c'est des nouveaux types d'interactivité et on est vraiment dans des rapports sociaux entre les gens. Voilà, tout d'un coup, moi j'adore les jeux de bluff. Moi, je sais pas du tout mentir, j'y arrive pas, mais tout d'un coup, on se retrouve dans un jeu vidéo où on doit bluffer et on a le vrai regard de la personne en face. Vous voyez, comme c'est comme le jeu de poker en ligne et en vrai, c'est pas du tout le même jeu en fait, parce qu'en ligne, on a un écran en face de nous et on a beaucoup de mal à deviner les intentions de l'adversaire, alors que le poker en vrai, entre guillemets, avec des vraies cartes, on est vraiment avec des adversaires en face et il y a tout un jeu psychologique qui se déroule autour de la table. Et ça, c'est vraiment, tout nouveau, je sais pas, mais en tout cas, c'est très intéressant d'essayer de mélanger les deux. Là, on a un jeu qui s'appelle World of Yo-Ho, donc c'est un jeu de pirates où vos bateaux sont vos téléphones. C'est un petit peu plus complexe, mais
chacun peut poser son téléphone portable et ça devient le pion sur votre plateau, sur votre jeu de plateau.
Exactement. Très bien résumé. C'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, chacun amène son bateau, son pion, on le pose sur un grand plateau et la partie commence et après on repart avec son bateau et son pion chez soi.
C'est amusant parce que vous avez donc décidé à l'origine d'explorer le papier et ses interactions avec le numérique, ce qui semblait pas du tout naturel. Et dans le numérique, vous explorez le caractère convivial des écrans, ce qui aussi est pas très naturel parce que une grande partie du numérique se passe en face à face avec l'écran et d'une manière isolée pour l'utilisateur.
Oui, tout à fait. Voilà. On se retrouve vraiment entre les deux, c'est ça. Donc c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, pas pour rien qu'on vient plutôt des jeux vidéo, mais on aime beaucoup, vous avez vu la collection en bas, de jeux de société et de livres, donc on aime tous ces univers. Voilà. Et là, mon idée par rapport au message qu'on voulait faire passer, c'est de ne pas opposer les deux. Parce que souvent, par exemple, dans l'édition, on voit souvent des gens qui disent « Oh là là, moi pour vous dire, j'ai 47 ans maintenant, j'ai fait les arts déco, on va dire, il y a 25 ans. »
Les arts déco, c'est une grande école d'art graphique, de design.
Voilà, de Paris, donc je suis designer de formation. Et déjà, il y a plus de 25 ans, on me disait « Oh là là, le livre va mourir à cause du numérique. » Il n'y avait pas encore Internet, hein. Mais déjà, les CD-ROM arrivaient, des choses comme ça arrivaient. Donc, il y a toujours cette peur. Et l'idée, non, il n'y a pas à avoir peur. Ça va évoluer, et joyeusement d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses qui vont rester en papier. Il y a certains supports, comme à mon avis les journaux, les quotidiens, vont disparaître, ou en tout cas vont devoir changer de forme d'une manière radicale, puisque au niveau de l'usage, moi en tout cas, je ne sais pas, mais je lis beaucoup les news ou les nouvelles sur mon petit écran. Par contre, un beau livre ou un beau roman, je l'achèterai toujours sur papier. Et les enfants un beau livre en pop-up ou très bien imprimé, ça fait toujours un très beau cadeau et c'est toujours un plaisir d'avoir un vrai objet dans les mains. Mais en même temps, ils jouent aux jeux vidéo. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des terrains d'entente. On est pour la paix, nous. Voilà. Non, mais c'est ça, en gros, c'est essayer de trouver et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on dégage, j'essaye en tout cas, on essaye de dégager des nouvelles manières de jouer, des nouvelles manières de lire. Par exemple, la lecture collective, c'est intéressant. La lecture, moi, je connaissais pas avant d'avoir des enfants, la lecture partagée. C'est-à-dire, tout d'un coup, je commence l'histoire et l'enfant continue sur mes genoux à raconter l'histoire. Ça, c'est un type de lecture, la lecture avec les parents ou les adultes, qui est vraiment passionnante et que les tablettes permettent de faire d'une manière assez aisée. De même, pour certains handicaps comme la dyslexie, on travaille dessus là en ce moment, les tablettes permettent de changer les polices de caractère, changer les contrastes de couleurs, des choses comme ça, le son aussi, et peuvent aider énormément pour les enfants dyslexiques. Donc en gros, on essaye de dégager. Hein. Alors on est très modeste, hein. Ici on est quatre, donc on n'est pas une toute petite structure. Mais on essaye de défricher en tout cas des terrains qui nous semblent intéressants. Round one. So you want to challenge me, eh? Very well, we will fight. And if you defeat me,
say them no know who we are. Original Kung Fu Master. We no take talk. Just like a ninja. We are original Shaolin Master. Just like Jet Li, but we're faster. Know who we are. Original Kung Fu Master. Just like a ninja. We no take talk. We are original Shaolin Master. Just like Bruce Chung Chung Bantan in your ear. Yeah, 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 yeah.
Vous avez aussi exploré le livre plus traditionnel. Vous m'avez sorti donc de votre stock un exemplaire d'un ouvrage qui s'appelle le 8-bit reggae, Collision and Creolization. Donc c'est un titre en anglais. Le livre est en français,
anglais.
Ouais. Le livre est en anglais. Donc il est sur une musique, c'est ça. Et là, qu'est-ce que vous avez réussi à faire comme interaction entre le papier et le numérique?
Donc là, c'est un livre assez classique. En fait, l'auteur, c'est Nicolas Nova, hein, qui travaille beaucoup sur les nouvelles technologies. Et donc là, il est parti sur un thème très très particulier. Hein. C'est du reggae qui n'est joué presque que par des Game Boy, des toutes petites consoles de jeux. Donc c'est un mouvement très très particulier. C'est une niche. Hein. Donc c'est pour ça que l'ouvrage est en anglais. Et c'est une musique très particulière. Donc il va analyser l'historique, le pourquoi, le comment on en est arrivé là. Et ce qui posait problème avec ce livre, c'est que si on n'a pas les références musicales, on ne peut pas comprendre. Donc là, d'une manière très très simple, hein, y a un petit système de QR code et de code barre qui permet, avec votre téléphone, vous passez votre téléphone dessus et automatiquement, vous allez entendre la musique qui est liée à l'article sur lequel je suis. Par exemple, là...
On peut tester ou pas? Vous avez un téléphone qui marche avec?
Donc là, par exemple, là, je vais vraiment au hasard. Hein, on va voir.
Photographier le QR code.
Voilà. Là, il l'a reconnu. Et là, normalement, voilà, je tombe. Et voilà. Donc là, j'ai la musique qui correspond à l'article que je suis en train de lire. Donc c'est la musique, comme vous voyez, très particulière, hein, sur à base de glitch, de jeux vidéo et de reggae.
Avec des grésillements.
Voilà, exactement. Tout est fait exprès. Hein, voilà. Donc ça, c'était quelque chose de très simple, en fait, hein, qui est vendu juste chez nous, hein, parce qu'on est, on a des choses très, très particulières.
Techniquement, qu'est-ce que vous utilisez pour permettre au papier, par exemple, aux petits objets en papier d'interagir avec un écran tactile? Ce sont des encres spéciales, c'est ça?
Alors oui, alors il y a certes, alors quand on a une reconnaissance d'objets sur la tablette, ce sont des encres spécifiques, des encres qui conduisent l'électricité, toute simple, hein, l'argent, par exemple, ça marche très bien. Sinon, la reconnaissance, par exemple, pour Balloon et Zephyr, la connexion Zephyr, il n'y a pas de reconnaissance. Les gens pensent qu'il y a une reconnaissance, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on demande juste aux gens de poser le petit objet au milieu de l'écran. Les gens sont gentils en général et posent l'objet au milieu de l'écran. Et on estime, nous, que l'objet est là. Donc on affiche une petite ombre, mais ça peut marcher avec votre téléphone, votre stylo, avec n'importe quoi. Donc ça, c'est marrant parce que c'est beaucoup de gens pensent qu'il y a une techno. Là, il n'y en a pas. Donc des fois, il y a des technos, des fois non. Le Yo-Ho, c'est vraiment les accéléromètres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez posé.
Yo-Ho, c'est votre jeu de plateau.
Le jeu de plateau. À partir du moment où vous avez posé. Et pareil, les gens le font. On vous dit, vous commencez à Port-Royal, c'est un jeu de pirates. Bah, les gens posent leur téléphone sur l'île où se trouve Port-Royal. Voilà. Donc on estime que les gens ne trichent pas, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Et à partir de là, ben, on peut bouger son téléphone et on part toujours de Port-Royal, donc on sait en gros vous localiser. Et dans le dernier, là, avec les zombies et les choses de reconnaissance, c'est la caméra. C'est-à-dire qu'on utilise, il y a des outils qui permettent maintenant de reconnaître des formes ou des objets assez facilement, avec plein de guillemets. Et donc à partir de là, ben, à partir du moment où l'objet est reconnu par la caméra, on sait que ben, vous êtes à la page 22 du livre. Voilà, ça c'est tout simple.
Où est-ce que ça vous mène tout ça? Est-ce que par exemple vous avez envie, vous vous posez le type de questions que vous nous avez posées tout à l'heure sur le papier? Est-ce que vous vous posez ça sur les romans, sur des livres plus difficiles à hacker ou à bidouiller? Et si oui, quel genre de questions vous posez? Qu'est-ce que vous explorez dans ces univers-là?
Alors au début, on était parti sur la narration, sur des choses un peu complexes. Et tout d'un coup, si le contenu, la forme sont complexes et l'interaction sont complexes, c'est vraiment trop complexe. Même nous, moi personnellement, je m'y retrouvais pas. Donc c'est pour ça qu'on est revenu aux interactions assez simples avec les enfants pour valider, pour y aller pas à pas. Parce que tout d'un coup, vous arrivez avec des nouveaux usages. Hein. Poser un objet sur un écran, c'est pas... Enfin, quand vous le voyez, vous dites, ah oui, pourquoi pas? Mais il faut l'expliquer aux gens. Et vous n'êtes pas toujours à côté d'eux en démo en train de leur dire, si, si, regarde. Ou alors, fais glisser ton doigt et tu vas voir, le ballon va décoller. Donc ça, c'est pas... Donc c'est pour ça qu'on est revenu d'abord à des mécanismes ludiques assez simples. Bon, on adore ça. Et après, là, on commence à travailler sur des... comme Yo, par exemple, qui est un jeu un peu plus complexe. Et on commence à travailler avec Julie Stephen Cheng aussi sur des histoires un petit peu plus complexes. C'est une auteure qui travaille avec nous, qui fait beaucoup de pop-up avec nous.
Donc pop-up.
Alors pop-up, c'est un terme anglais. C'est des, vous savez, c'est des livres quand on les ouvre, vous avez des volumes en papier qui vont se fabriquer devant vous juste par la torsion du papier. Voilà. Donc c'est des livres en volume. Donc on travaille beaucoup là-dessus. C'est toujours magique ça et lié à des interactions numériques. Donc là, on commence à travailler pas mal avec d'autres éditeurs papier classiques qui viennent nous voir en disant voilà, nous on a un contenu. Je peux pas en parler là, mais par exemple sur des grands auteurs ou sur des cinéastes, des gens comme ça. Et j'aimerais bien travailler avec vous, avec vos mécaniques de jeu ou de narration, avec mon propre contenu.
Et quel type de questions, du coup, vous posez à la narration traditionnelle ou à la narration romanesque, puisque j'ai vu que vous fonctionniez par questions que vous allez poser au papier? Qu'est-ce que c'est les questions concrètes que vous posez ou que vous vous posez pour détourner ça, cela?
Les questions, toutes simples, quand on travaille avec un auteur, c'est voilà, on est en 2016, on a tous un téléphone dans notre poche. Quand je commence à lire, par exemple, un roman ou une histoire sur ma tablette ou mon téléphone, c'est où je suis. C'est à quelle vitesse je me déplace, c'est à quelle hauteur je suis, c'est s'il fait beau ou pas autour de moi, c'est si j'ai des amis autour de moi. Donc tout d'un coup, on se retrouve avec un livre qui sait énormément de choses sur vous. Alors si vous dites OK avec Facebook, alors là c'est la fête, c'est-à-dire qu'il connaît tous vos amis, toutes vos préférences. Voilà. Donc ces petits objets connaissent énormément de choses sur vous. Donc une des questions, par exemple, c'est ne peut-on pas écrire des histoires, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est raconter des histoires, mais d'une manière un peu nouvelle et qui va utiliser par exemple toutes ces données. On peut en avoir peur, c'est-à-dire que tout d'un coup, on dit, mon téléphone, tout le monde peut savoir où je suis. D'accord, ça, je crois que c'est fait, hein. Snowden nous l'a montré. Enfin voilà, y a pas mal, on peut nous espionner assez facilement. Mais est-ce que pour un auteur ou des gens qui ont envie de raconter des histoires, ça peut pas être une opportunité aussi? Là, c'est pas pour espionner, mais c'est juste pour, une fois de plus, défricher de nouveaux espaces. Par exemple, on pourrait imaginer un roman très classique où on commence à lire et là on est à Malakoff pour tout vous dire, et tous les lieux
en région parisienne, juste à côté de Paris.
Voilà, exactement, oui, merci de préciser. Voilà, on est au sud de Paris. Je peux commencer à lire mon histoire et tous les lieux pourraient être des lieux qui se trouvent autour de chez moi, et donc tout d'un coup, mentalement, je connais très bien le café ou la station de métro qui est à côté de chez moi. Ça peut être intéressant pour un auteur. Et si je suis n'importe quoi à Pointe-à-Pitre ou je suis à New York, tout d'un coup c'est le même roman, mais par contre les lieux sont totalement différents, et donc dans l'imaginaire du lecteur, ça va changer complètement les choses. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un exemple, hein.
Et j'imagine aussi, parce que là en m'expliquant, vous êtes en train de toucher l'écran d'un téléphone pour montrer qu'on navigue dans le récit. J'imagine que vous aimeriez bien aussi réinjecter du papier ou quelque chose de physique dans ce genre de narration. Enfin, essayer de voir, ouais.
Ah oui, moi, mon rêve, ce serait de revenir à des objets. Enfin, mon rêve. Non, mais de travailler, on a des objets, là, je ne peux pas vous montrer tous les prototypes, mais là, par exemple, on a un réveil en papier où on a fait des livres, ce sont des livres classiques, hein, sauf que le téléphone est glissé dedans et le téléphone arrive à savoir. Donc, je vous explique brièvement, on a un livre classique. Par contre, dans la quatrième de couve, donc dans l'arrière du papier, on glisse un téléphone. Le téléphone, par une petite technologie qu'on a inventée, sait à quelle page vous êtes et sur quel livre vous êtes. Et on branche, donc le téléphone est totalement invisible, hein. Il est dans le livre. Par contre, on vous demande de mettre les écouteurs. Et comme le livre sait à quelle page vous êtes, le son le design sonore, tout l'environnement sonore va changer suivant l'endroit où vous êtes dans le livre. Mais surtout, on a designé, alors c'est un prototype, une petite enquête policière où je dois enquêter sur différentes personnes. Et quand je reviens en arrière dans le livre, par exemple, je dois vous interroger, voilà. Et puis vous me dites, allez voir mon cousin en page 24. Je vais à la page 24, le logiciel le sait. Là, j'entends au niveau audio des informations et je peux lire en même temps. Si je reviens vous voir à la page 2, bien sûr, ce qui est écrit sera toujours la même chose. Mais par contre, ce que vous allez dire au niveau audio va changer. Et là, tout d'un coup, on a quelque chose d'assez intéressant. Toujours cette même idée du livre qui sait à quelle page il est. Je suis sûr que c'est une bonne idée, ça. On va y arriver un jour. Mais à partir du moment où le livre, c'est ça. Enfin, pour moi, ce qui est nouveau dans la narration, et c'est là où il y a plein de choses à explorer, c'est que tout d'un coup, ces petits objets qu'on a dans notre poche, on va lire ce livre, même si c'est un téléphone ou une tablette, et ça va, je pense, finir même sur du papier, presque. Ce livre ou ce papier intelligent va savoir beaucoup de choses sur vous. Donc, comment arriver à réinjecter toutes ces informations dans une histoire. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un travail passionnant. C'est un des chantiers, mais à long terme, bien sûr. Mais ça, voilà. Ma question, c'est est-ce qu'on peut écrire encore en 2016 comme on écrivait au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle? Je suis sûr que oui, il y a des romanciers extraordinaires. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu défricher et de voir, comme dans la musique, il y a de la musique électronique, il y a toujours du piano. Hein. La musique électronique n'a pas tué le piano ni le violoncelle. Par contre, ça ouvert de nouveaux champs d'exploration au niveau musical. Et je pense que dans la narration, et c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup aux jeux vidéo, par exemple le jeu vidéo indépendant actuellement, pas les gros jeux vidéo, mais la narration est très importante. On a des simulateurs de marche, vous voyez, très lents. On a des choses, des jeux vidéo, là j'en ai vu un qui dure sur 200 ans. Donc vous êtes obligé de donner à vos descendants ce jeu vidéo pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est dans l'expérimentation, mais par exemple dans le jeu vidéo, il y a beaucoup beaucoup d'expérimentation, des jeux purement textuels, alors qu'on est en 2016. On se dit on pourrait faire des choses extraordinaires graphiquement, au contraire, des jeux où ça se passe uniquement via SMS. Voilà, et c'est passionnant, c'est ça qui est intéressant parce que sinon Donc en gros, on a plein de nouveaux outils technologiques qui peuvent faire plus ou moins peur. Et nous, l'idée, c'est d'essayer de redonner modestement un peu de poésie, un peu de sens à toutes ces technologies, en fouillant, en bricolant, en hackant du livre, des ordinateurs, hacker au sens bricolé. Hein.
Dernière question, quel regard vous portez sur l'évolution plus généralement de l'édition du livre? On a l'impression qu'il y a forcément l'économie qui change, mais pas grand-chose d'autre. Quelle perception vous avez-vous?
Non, en effet, c'est assez... Alors, je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe quand on est un peu tout seul. On n'est pas tout seul, hein. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur un nouveau type de narration. Mais c'est vrai que c'est assez disparate. Et c'est des toutes petites structures qui vont commencer à travailler sur ce nouveau type de narration. Après, c'est vrai que les grandes structures sont plutôt en attente de voir ce qui se passe et après vont arriver, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont laisser des petites start-up ou des petites pousses en français travailler dans des domaines précis. Et s'il y a une application, un livre, un jeu qui marche particulièrement, ils vont arriver et vont dire, voilà, c'est validé par le public. Après, c'est vrai que c'est assez tranquille. On est en 2016 quand même. Alors, il y a des gens qui travaillent sur que les tablettes, d'autres que sur le téléphone, d'autres que sur le papier. Ce qu'on appelle c'est un drôle de mot, le transmédia ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui arrive doucement, qui va arriver de toute façon, a priori, mais ça arrive doucement. Après, il y a un autre aspect là qu'on découvre en nous, c'est les réseaux de distribution. C'est que tout d'un coup, on se retrouve dans des réseaux de distribution qui existent depuis de longues années, de dizaines d'années, voire presque centaines d'années, qui sont très...
Librairies, par exemple.
Voilà, par exemple, dans les librairies, quand vous arrivez avec un objet comme ça...
Comme le livre Zéphyr pour enfants.
Voilà, collection Zéphyr. La question, je le dis sans méchanceté, c'est où je vais le mettre. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve entre le livre pour enfants, le jeu, l'application, puisque c'est derrière, on a marqué télécharger l'application sur Apple Store et Google Play, Android. Le libraire, c'est pas trop où le mettre. C'est tout bête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel rayon nous mettre. Voilà. Donc c'est normal quand on fait des choses nouvelles, il faut l'assumer, mais on n'arrive pas à être dans des cases précises. Donc, en distribution, on ne sait pas trop où être. C'est tout bête, en France, la TVA est à 5,5 pour le livre, techniquement. Pour le jeu, c'est 20%. Donc, il y a des trucs très, très bêtes. Et nous, on est pile entre les deux. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça avance pas très vite. Et donc, on n'est pas très visible par rapport au grand public. On a la chance, par exemple, d'être interviewé par vous, par d'autres. On a pas mal de... Je ne sais pas si on a beaucoup de presse, mais quand même, on a une visibilité certaine. Par contre... Vous arrivez dans une librairie, moi le premier, on va dans une librairie où on est diffusé, je ne saurais pas dans quel rayon me trouver. Donc je suis obligé de demander à la personne, est-ce que vous avez la collection Zéphyr? Donc ça, c'est notre problème. J'espère que c'est un problème momentané, mais c'est quand on défriche, c'est toujours un peu le problème. Mais petit à petit, on va essayer d'y arriver. Puis surtout, on apprend régulièrement, puisqu'on a le retour. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, on a vraiment, les gens peuvent nous écrire en ligne, on a des commentaires, on a, voilà, donc là on apprend beaucoup, par exemple sur Yo, là en ce moment on travaille dessus, c'est un jeu qui est sorti il y a 2 mois maintenant, on doit faire la 4e mise à jour, puisqu'on a eu beaucoup de retours, de corrections de bugs, de choses comme ça, mais surtout des améliorations du jeu, puisque quand on voit que, je sais pas, 4000, 8000, 10000 personnes jouent au jeu, là on se retrouve dans des mécanismes de jeux vidéo qui sont beaucoup plus souples, contrairement à un livre où quand il est imprimé, bah, il est imprimé. Et au mieux, l'année prochaine, vous faites une version augmentée ou une version supplémentaire. Là, très vite, nous, on peut être réactif et améliorer l'ouvrage, le projet régulièrement. Donc ça, c'est un des avantages. Donc voilà, donc c'est presque un nouveau métier, là. On défriche tout ça joyeusement.
C'était l'Atelier des médias, une émission, un projet porté par Camille Deloche, Mathias Virilli, Manon Mella, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Pour nous réécouter, c'est très simple, rendez-vous sur atelier.rfi.fr ou sur toute bonne application de podcast. J'utilise en ce moment la version gratuite de Castbox pour Android. Salut à toutes et à tous.
http://atelier.rfi.fr
Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down, pull me closer if you think. Going in to have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging.
Géo.